Bonjour Marie.
Bonjour Véronique.
Alors le compost, bon, on a l'impression que tout le monde connaît parce que c'est quand même une pratique qui se répand. Mais en fait, il y a quelques éléments à connaître à propos du compost. Qu'est-ce qu'on met dans son compost ?
Oui, en effet, le compost, c'est quand même quelque chose d'assez technique. Ça m'arrive souvent sur les stands d'avoir des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je n'arrive pas du tout mon compost, je comprends pas ». Et en fait,
Quels sont les problèmes que ces gens rencontrent ?
Alors, très souvent, le compost sent mauvais et on a beaucoup de petites bêtes, des moucherons dans le compost et ça stagne.
Au lieu de se transformer en terre, ça reste une sorte de bouillie, c'est ça, non ?
Alors, en fait, la différence, c'est que la terre, c'est un support minéral. Et auquel on va avoir le compost qui, du coup, va être la matière organique. Le support, c'est la plante, c'est un peu comme la maison. La plante a besoin de ce substrat, de cet endroit pour vivre, mais elle a besoin aussi de nourriture. Donc, le compost en est une, parmi tant d'autres. Hein. On va avoir du fumier, on va avoir beaucoup, beaucoup d'autres matières. Et le compost est la matière qu'on peut faire à la maison très facilement.
Mais comment est-ce qu'on reconnaît un bon compost, justement ?
Alors, un bon compost, il y a deux tests. Alors, à l'odeur, normalement, ça sent à peu près la forêt. Ça sent la forêt, ça sent pas mauvais. Et il y a un deuxième test, c'est le test de la poignée. Si quand vous prenez votre compost et que vous serrez, ça dégouline, c'est que votre compost, il est trop humide. Si il reste en forme de boule quand vous desserrez la main, c'est qu'il est trop humide. Et si au contraire, il s'effrite complètement, c'est qu'il est trop sec.
Et le fait d'avoir un tas de lombricompost, est-ce que c'est un bon signe ? Dans son compost, on a plein de vers, là, vers qui ressemblent à des vers de terre.
Tout à fait. Alors, le vers est très spécifique, c'est le vers Esenia, qui est un vers un petit peu plus long, un peu plus rouge. Et donc, en effet, le vers fait partie des décomposeurs vitaux pour le compost. Après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Le champignon fait partie, enfin, les champignons font partie aussi processus de compostage, les cloportes, les scarabées parfois, si on y met du broyat. Et donc en fait, le compost, c'est un processus qui prend entre 8 mois et 10 mois, si, en fonction de ce que vous y apportez, et qui est fait d'un permanent équilibre entre matière brune et matière verte. En fait, matière brune et matière verte, ça va être... Les deux principales composantes. Donc, par matière verte, je vais entendre matière humide. Donc, si vous mettez de la tonte de gazon, mettez-en parcimonie, c'est-à-dire un petit peu, pas trop. Donc, les épluchures de légumes font partie des matières vertes. Et donc, la matière brune va être toutes les matières sèches que vous allez y mettre, c'est-à-dire éventuellement du carton. Si vous mettez un petit peu de sopalin, quand vous allez au magasin en vrac et que vous achetez du riz, des pâtes, en vrac, votre sac, si vous ne savez pas trop quoi en faire, soit vous le réutilisez, soit vous le coupez en petits morceaux et donc au compost. Les filtres à café, les sachets de thé.
Et donc... le café lui-même, le marc de café, c'est du brun ou c'est du vert ?
Alors, celui-là, il est un petit peu à part parce que c'est une denrée à lui tout seul. Moi, je le considère plutôt dans les matières vertes, donc parce que généralement, il reste empreint d'humidité. Cela dit, le marc de café, vous pouvez même l'utiliser tel quel sur votre sol ou quand vous rempotez vos plantes.
Ah oui, donc c'est même pas la peine qu'il passe par le compost.
C'est pas nécessaire, mais après, ça vous évite de faire le tri et d'avoir plein de poubelles différentes. Quand vous avez des capsules ou des dosettes, c'est sympa aussi de les ouvrir. Ça permet du coup d'avoir des éléments moins gros. Plus vos éléments sont importants, plus le compostage va être long.
Oui, si on met toute la queue de l'ananas, par exemple, ça va être très long à dégrader, quoi.
Exactement, exactement. Si vous mettez du pain... déjà, le pain, c'est pas une denrée qui se composte très très bien. Donc, l'idéal, c'est de l'utiliser soit en chapelure, soit de le donner à des poules ou à des chevaux. Soit, si vous l'utilisez, si vous le mettez quand même au compost, de le couper en petits morceaux parce que, en gros bloc, il va avoir tendance à moisir et du coup, pas du tout à se dégrader.
Et qu'est-ce qu'il faut éviter carrément de mettre dans son compost ?
Moi, je vais vous déconseiller d'y mettre des déchets carnés, de la viande, du poisson, des coquilles d'huîtres. Puisque là, on vient de passer les fêtes. Les coquilles d'huîtres, ça se composte très, très mal. L'idéal, c'est de les broyer avant. Et donc, du coup, c'est hyper fastidieux. Et comme on ne le fait pas, du coup, on les met telles quelles, ça ne se composte pas. Les coquilles de moules, quand on est en été, on évite de les mettre pour exactement la même raison. Tout ce qui va être croûte de fromage, on peut les mettre. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne déconseille pas les agrumes parce que je ne connais personne qui mange 10 kilos d'agrumes par semaine. Par contre, petite précaution, on évite quand on presse des oranges ou des pamplemousses, on évite de mettre la demi-écorce comme ça. Vaut mieux la couper en petits morceaux, ça se compostera mieux. Pareil, j'ai des personnes qui me disent « Ah, moi, je ne mets pas du tout d'oignons, on m'a déconseillé de mettre les oignons. » Alors, en fait, les oignons, ça se composte très bien, il n'y a aucun souci, juste... On n'en utilise pas trop, enfin on n'en met pas trop, dans la mesure où les Vérézénias détestent cette odeur, ça les fait fuir.
Le broyat, c'est de la matière sèche plutôt alors pour le compost ?
Tout à fait. Alors, le compost, donc, je le rappelle, fait d'équilibre matière brune ou matière verte. 50-50. Donc, quand on met un bio-seau, donc généralement, on utilise un bio-seau. Donc, quand vous allez acheter votre composteur, notamment en collectivité, on vous fournit avec un bio-seau, donc à mettre dans votre cuisine, que vous alimentez. Donc, toujours mettre une feuille de journal au fond. On peut utiliser le journal pour mettre au composteur, puisque le journal est fait d'encre végétale. Donc, il n'y a pas de contre-indication là-dessus. On évite tout ce qui est papier glacé de magazine. Ça, en le tri sélectif, ça suffit. Et donc, vous allez mettre un bio-seau dans votre composteur et systématiquement rajouter l'équivalent d'un bio-seau en matière brune. Donc, que ce soit du broyat ou que ce soit des feuilles mortes séchées ou de l'herbe de tonte que vous avez fait sécher, que vous pouvez apporter. Donc, c'est-à-dire que l'apport de matière brune peut varier en fonction de la saison. C'est-à-dire, en automne, vous allez y mettre des feuilles mortes qui auront séché. Au printemps, c'est plus la période où vous tondez, donc vous allez peut-être avoir plus de facilité à mettre de la tonte sèche. Si vous taillez votre haie en été, vous faites du broyat, vous utilisez le broyat tant que vous en avez. Donc l'apport de matière brune ne va pas forcément être le même tout au long de la saison.
Mais c'est pas grave.
Non, il n'y a aucun souci. L'idéal, c'est d'avoir une diversité. La vie, elle est faite de diversité. Et donc, forcément, on n'utilise pas, comme on ne mange pas la même chose toute l'année. Donc, du coup, le compost n'est pas composé de la même chose toute l'année.
Et donc, on sait que le compost est prêt, entre guillemets, à être étalé, notamment dans le potager. Quand alors
Alors, l'idéal, c'est d'avoir une période d'apport, d'y apporter très régulièrement des choses. Donc, éventuellement, vous compartimentez votre composteur, soit vous mettez une planche entre deux pour créer deux compartiments, soit vous avez deux composteurs si vraiment vous avez beaucoup plus de place dans votre jardin, ou c'est possible de composter en tas aussi, si vous avez un très grand jardin et que vous avez mis tout ça au fond. Et à ce moment-là, vous faites une phase d'apport et vous stoppez les apports quand vous estimez que là, il me reste trois mois de maturation, et dans 3 mois, je pourrais utiliser mon compost. Donc, vous stoppez, vous apportez dans l'autre compartiment. Pendant ce temps, le processus de maturation va se faire. Donc, il y aura une montée en température. Ça peut monter assez haut, hein, un compost, ça peut monter à une trentaine, quarantaine de degrés, mais c'est tout à fait normal. Pendant ce temps-là, si vous voyez que ça ne se passe pas comme vous voudriez, que c'est trop sec, hop, un petit peu d'eau, ça ne mange pas de pain, ou vous l'ouvrez quand il pleut. Vous me dites, c'est vraiment très très humide, à ce moment-là, vous l'ouvrez quand il fait beau, quand il y a du vent, et l'idéal, c'est d'apporter un peu de matière brune et de le retourner. Donc, le compostage a besoin aussi d'oxygène, parce que toutes les bestioles qui y vivent ont besoin de respirer. Si le compost est trop tassé, les petites bêtes vont partir.
Et donc tout ça, on le met évidemment, quand il est prêt en tout cas, sur son potager. Bon, là, en ce moment, le potager, on va dire, est un peu en sommeil, mais il reste encore des légumes à manger. Lesquels ?
Tout à fait. Alors, fin janvier, il va nous rester l'ail, la betterave, la carotte, céleri, chou de Bruxelles, les endives, épinards, les navets, on est à la fin des panais aussi, topinambours, poireaux et pommes de terre.